Mercredi 12 février 2020, vous êtes à l'écoute du journal en français de Studio Kalangu. Tout de suite, les titres. Plusieurs femmes et enfants, tous déplacés de Chinagoder, ont trouvé refuge à Baleyara. Ils sont pris en charge par de bonnes volontés, témoignage dans ce journal. La justice d'Agadez a blanchi 3 personnes et a condamné 8 autres avec sursis. C'est le délibéré rendu ce matin dans l'affaire qui oppose l'État du Niger aux réfugiés soudanais. La limitation du mandat présidentiel peut-elle promouvoir la bonne culture démocratique en Afrique? Le constitutionnaliste Amina Karte répond dans le magazine de ce journal. Bonsoir à tous, à la présentation de Fils Adam Sirfo. Aux âmes bien-nées, la valeur n'attend point le nombre des années. Madame Hindou est une veuve de la ville de Baleyara. Malgré ses moyens limités, elle a pris en charge une vingtaine de femmes et enfants qui sont des déplacés de Chinagoder à Baleyara, région de Tillabéri, menacée par des groupes armés. Pourquoi cette solidarité? Écoutons Madame Hindou au micro de Hassan Moumouni.
On a quitté Chinagoder pour Baleyara. Ce qui nous a amenés à Baleyara, c'est l'insécurité. On était dans la ville et ils sont venus nous dire de quitter la ville avant le lendemain à midi. Sinon, tout celui qu'ils reviendront trouver dans la ville subira les conséquences. Nous aussi, nous avons vu que nos vies sont plus précieuses que tout. Donc, on a quitté pour venir dans un petit village à côté de là-bas. On a dormi une seule nuit là-bas et ensuite on a continué sur Abala. C'est de Abala qu'on est venu à Baleyara. Nous sommes plus d'une vingtaine venus ici. Non, c'est pas nous seulement. C'est parce que les autres enfants ne sont pas là. Ils sont partis à l'école, on a pu les inscrire. Arrivés ici, on a très bien été accueillis. Parce que de nos jours, pour quelqu'un qui n'est pas marié, elle en fait beaucoup pour nous. C'est elle qui se débrouillait pour nous donner à manger. Jusqu'à ce que ses voisins et voisines aussi nous viennent en aide.
Je vous le disais dans les titres, 3 personnes blanchies par la justice, 4 condamnées à 4 mois de prison avec sursis et les 4 autres personnes à 1 an de prison avec sursis. C'est le délibéré rendu ce matin par la justice d'Agadez de l'affaire qui oppose l'État du Niger aux réfugiés soudanais. Maître Oumar Mahamad Rabiou, avocat défenseur des demandeurs d'asile condamnés sur le jus des sentences. On l'écoute.
Il y a parmi les 11, 3 qui sont renvoyés à des fins de poursuite, c'est-à-dire qu'ils sont blanchis, les faits ne sont pas établis à leur égard. Il y a le reste qui ont été reconnus coupables des faits d'attroupement et de rébellion et ils ont été condamnés à la peine de 1 an assorti de ceci. Et il y a les 4 autres qui ont été condamnés à la peine de 6 mois assorti de ceci. Donc grosso modo, on peut se réjouir de cette décision même si on n'a pas été suivi totalement dans ce que nous avions demandé. Parce qu'en tout état de cause, avec cette décision, et tous ils vont sortir de la prison.
Donc le jugement va se poursuivre avec le restant?
Le jugement va se poursuivre avec le restant et nous sommes là pour les assister éventuellement.
Corrélation entre migration et éducation, c'est ce qui ressort dans les résultats d'une étude réalisée dans les communes de Loga, région de Dosso et Kanché dans la région de Zender. L'étude a été menée par le groupe d'études et de recherche sur la migration, les espaces et les sociétés CERMES. Issa Abdulhiza, géographe à la faculté des lettres et sciences humaines de l'Université de Niamey, membre de ce groupe, nous édifie sur ce lien.
Cette migration concerne surtout les parents. Ce que nous appelons suivre les parents dans leur migration, notamment pour venir dans les villes, notamment à Niamey. Loga, en majorité, c'est des femmes. Les enfants, ils suivent les femmes, ils suivent leur mère. Donc, pour venir à Niamey ou à Gaya. Et nous avons constaté que beaucoup d'enfants sont souvent déscolarisés parce que les femmes quittent avec les enfants qui sont en âge de scolariser et souvent qui sont déjà dans le système scolaire.
Vous parlez de l'école primaire?
Je parle d'abord du primaire. En fait, au primaire, c'est les parents qui sont en fait à l'origine. C'est la migration des parents qui est à la base de scolarisation. Mais au collège, nous avons constaté que ce sont les enfants eux-mêmes qui migrent. Ils quittent d'eux-mêmes pour venir à Niamey pour travailler. Mais il faut quand même reconnaître que le fait de dire que la migration est à la base d'une déscolarisation, souvent c'est des idées reçues. Parce qu'en fait, le constat que nous avons fait, c'est que la migration aussi contribue à financer la scolarisation.
Des propos recueillis par Olivier Assogbavi. Le président malien Ibrahim Boubacar Keïta a confirmé sa volonté de dialoguer avec les groupes terroristes pour mettre fin au terrorisme au Mali. C'était dans un entretien accordé aux médias français RFI et France 24 en marge du 33e sommet de l'Union africaine tenu la semaine passée à Addis Abeba en Éthiopie. Pour Ibrahim Mega, chercheur à l'Institut d'études de sécurité de Bamako, le dialogue est une option à côté d'autres pour arriver des solutions. Il est joué au téléphone par Studio Kalangu.
Il faut, je pense, aller au-delà de la réflexion binaire en pensant qu'on va soit dialoguer avec ces groupes, soit les réduire militairement. Il faut nécessairement approcher la question en ayant à l'esprit qu'on a plusieurs outils à notre disposition pour combattre ces groupes actifs au Sahel. Le dialogue est une option, mais la réponse militaire ou sécuritaire en est une autre. Et donc, la question n'est pas tant de savoir si on remplace l'une des options par l'autre, mais comment on met ensemble ces différentes options pour arriver à bout de ces groupes-là. Parce que quand vous regardez de près ces groupes, finalement, ils capitalisent sur les failles de la gouvernance des États. Or, sur ces questions-là, l'outil militaire n'est pas le plus adapté. L'un des objectifs, bien entendu, affichés ou phares de ce dialogue, c'est de ramener Amadou Koufa ou Yada Gali à renoncer totalement à la violence comme mode d'expression. Après, je pense qu'il faut aller au-delà de cet objectif. Le dialogue est un outil dans une boîte à outils qui comprend le sécuritaire, le développement, la gouvernance et autres.
Niger, expropriation et controverse, c'est le titre de l'article publié en janvier par le bimensuel événement. Cet article a écrit en collaboration avec la cellule Norbert Zongo pour le journalisme d'investigation Senuzo, rentre dans le cadre d'une enquête menée par Sahiru Youssouf, le journaliste, pour montrer l'absence d'indemnisation préalable ou des retards dans le dédommagement des propriétaires terriens dans les cas d'expropriation pour cause d'utilité publique. Quels sont les dossiers sous lesquels il a basé son enquête? Il répond au micro de Rukayetou Abdrahman.
J'ai ciblé les infrastructures qui sont construites et je suis parti vers des gens qui ont été expropriés. Et pratiquement tous n'ont pas été indemnisés au préalable, tel que la loi l'a prévu.
Est-ce que vous pouvez citer quelques projets?
J'ai pris par exemple le projet de réhabilitation de la route Maradi-Matarumfa. J'ai également pris le cas de la corniche Yantala, principalement au niveau de Kombo. Juste une petite nuance, par exemple, quand tu prends le cas de Maradi-Matarumfa, des expropriés n'ont pas été indemnisés au préalable. C'est en cours de projet qu'il y a eu un premier décaissement où certains ont été indemnisés, d'autres non. À la date où je me suis entretenu avec les expropriés, il y a 112 personnes qui n'ont pas été totalement indemnisées. Et parmi ces 112, il y a 15 qui n'ont rien perçu de l'État.
Meina Karté, secrétaire générale de l'Association des constitutionnalistes du Niger, explique ce qu'est l'expropriation pour cause d'utilité publique qui doit se faire sur la base d'une juste et préalable indemnisation conformément au respect des textes en vigueur, particulièrement la Constitution. Meina Karté au micro de Ternan Foudey Ahmed.
Dans la Constitution, à l'article 28, il a bien été dit qu'on ne peut exproprier que non seulement pour cause d'utilité publique, mais aussi sur la base d'une juste et préalable indemnisation. Si le bien qu'on va exproprier pour faire l'ouvrage public, si ça vaut 1 million, eh bien, l'État doit vous donner pas 800 000 francs ou 500 000 ou 100 000 francs. Maintenant, préalablement à la dépossession, l'État doit donner l'argent. Ce n'est pas après la dépossession. Donc, ça se fait sur la base d'une juste et préalable indemnisation. Mais on constate que souvent, dans les procédures d'expropriation, certaines obligations ne sont pas remplies.
Est-ce que le non-respect de ces principes donne à la colère des populations expropriées une légitimité?
Ce que la Constitution a dit en son article 28, et ce que aussi la loi relative à l'expropriation a indiqué, les personnes expropriées sont en droit d'engager des procédures devant le juge pour entrer dans leurs droits. Il est désigné un juge des expropriations.
Ouf de soulagement bientôt pour les usagers de l'axe Tawa Arlit. Le ministre de l'Équipement a lancé ce 12 février à Agadez les travaux de construction du pont Telwa long de 160 mètres. Les travaux dureront 14 mois et selon le ministre Kadi Abdoulaye, ce pont pourra supporter les trafics de la future route transsaharienne. Il est au micro de Moussa Maman.
L'importance du pont de Teloa n'est pas à démontrer. En période de pluie, il y a toujours des difficultés pour que les échanges se fassent normalement. Aujourd'hui, on a pensé construire ce pont-là au lieu de maintenir l'ancien système en submersible. C'est plus intéressant. Ça apporte l'avantage que la route elle va devenir une transsaharienne. Donc ce ne serait plus une route nationale seulement. De l'Europe, des véhicules peuvent venir vers le Niger, vers le Nigeria, vers le Tchad. Donc c'est normal qu'on prenne déjà nos dispositions dès maintenant pour faire un ouvrage qui va supporter ce trafic. Et puis d'ailleurs, on a dit, nous avons marqué 14 mois. C'est l'entreprise qui a voulu que ce soit 14 mois. Mais nous, dans notre esprit, ce pont-là, il peut se faire à moins de 14 mois. Et le savent. Et de toute façon, les moyens qu'ils vont mettre pour le réaliser, moyens matériels, moyens humains et financiers, seront disponibles pour qu'on n'ait pas d'arrêt, puisse aller très vite.
L'art au service de l'environnement, c'est le message du 4e colloque international de la filière art et culture qui a débuté ce matin à l'université Abdou Moumouni de Niamey. Le thème de cette année est art et environnement, mieux habiter la ville. Douma Ardo Abdoulaye, un des organisateurs, donne plus de précisions au micro de Fanta Chamsou.
L'art est une représentation à travers laquelle on peut faire comprendre au monde ce qu'est la vie, mais aussi on peut se projeter dans l'avenir. L'environnement aussi, c'est le cadre dans lequel nous vivons. Donc art et environnement, ça montre qu'à travers l'art, on peut rendre l'environnement beaucoup plus perceptible. Donc ce colloque est une façon pour les spécialistes qui sont venus de plusieurs pays. Il y a des Italiens, des Antillais, des experts africains, tous ces experts vont apporter leur contribution par rapport à cette thématique. On va animer plusieurs panels sur la question de la ville et l'environnement. Donc, comment penser la ville? Comment est-ce que, à travers ces arts, la ville est représentée?
À présent, le magazine de ce journal, plusieurs pays africains vont bientôt entamer les élections générales. Dans beaucoup de ces pays, ces consultations ne se déroulent pas toujours de façon sereine, car se pose toujours l'éternelle question de la limitation des mandats présidentiels. Cette question a d'ailleurs été évoquée au 33e sommet de l'Union africaine tenu la semaine dernière à Addis Abeba en Éthiopie. En quoi la limitation du mandat présidentiel peut-elle promouvoir la bonne culture démocratique en Afrique? Maina Karté, secrétaire générale de l'Association des constitutionnalistes du Niger, répond au micro de notre reporter Ternan Foudey Ahmed.
La démocratie moderne, surtout la démocratie africaine, ne peut s'accommoder d'une réélection sans aucune restriction. Il faut restreindre les mandats. Sans limitation des mandats, il n'y a pas de démocratie.
Il faut limiter les mandats combien de fois pour la bonne culture démocratique?
Pour une bonne culture démocratique, la formule en vigueur à travers l'Afrique, c'est la possibilité d'être réélu une seule fois. Vous avez des mandats de 4 ans, de 5 ans. Donc un président peut faire 5 ans puis être remplacé. Mais au-delà, ça va se transformer en monarchie. Surtout pour les régimes africains qui en réalité sont des régimes pas présidentiels ou semi-présidentiels, mais des régimes présidentialistes qui souvent dégénèrent même en dictature féroce.
En Afrique, à chaque fois qu'on parle de limiter les mandats, nos États basculent vers une crise institutionnelle. Est-ce que le fait de ne pas limiter les mandats, il a des avantages qui peuvent promouvoir quelque part la culture démocratique?
Quand on ne limite pas les mandats, on consacre des oligarchies à la tête de nos États. Les instruments africains de consolidation de la démocratie, notamment la charte africaine de la gouvernance de la démocratie, la charte de la CEDEAO, doivent pouvoir être un peu plus explicites par rapport à la question des mandats. Il y a des critères de convergence constitutionnelle au niveau de ces institutions africaines-là. Il faut que de par les organismes communautaires africains, qu'il y ait une idée nette par rapport à la limitation des mandats. Parce que les chefs d'État africains ne parviennent pas à s'approprier cette culture de limitation du pouvoir. Dans le protocole ASP de la CEDEAO et aussi dans le protocole de l'Union africaine, qui est d'ailleurs en train d'être revue en ce moment-là, il faut vraiment des prescriptions nettes par rapport à la limitation du mandat politique. Il faut qu'on l'écrive dans les textes communautaires et dans les textes de l'Union africaine. Comme ça, les chefs d'État ne seront pas tentés de faire une aventure pour déplafonner le mandat.
Est-ce qu'aujourd'hui l'Union africaine ou bien la CEDEAO dispose d'une force juridique qui peut empêcher à ses présidents de vouloir briguer un troisième mandat?
Il y a beaucoup de fondements juridiques internationaux, régionaux, qui donnent la possibilité aux organisations africaines de dire arrêtez ce que vous êtes en train de faire. Les mêmes mécanismes avaient prévalu en 2009 au Niger.
Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite, le forum de Studio Kalungu, lutte contre l'esclavage au Sahel. Où en sommes-nous? C'est une coproduction des Studios Kalungu du Niger et Tamani du Mali.